Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avons aujourd'hui un des passages de l'Évangile les plus profonds, les plus beaux, les plus importants de la révélation. Ce sont les noces de Cana. Elles sont souvent réduites au miracle de la transformation de l'eau en vin, mais la signification de cet événement, de l'invitation de Jésus à un mariage, est très lourde de sens pour nous, pour notre foi, pour notre espérance. Car nous qui n'avons pas encore totalement quitté ce temps de Noël, jusqu'au 2 février, jusqu'au temps de la présentation de l'enfant Jésus au temple, dans la fête qui sera solennisée le dimanche, eh bien, nous devons nous souvenir qu'avant de se manifester publiquement, Jésus, ayant vécu 30 ans auprès de ses parents, ayant seulement à 12 ans manifesté d'une manière particulière à son père adoptif Joseph et à sa mère, la Vierge Marie, son désir déjà d'être aux affaires de son père en disparaissant pendant 3 jours à Jérusalem, posant des questions et répondant lui-même à des prêtres, à des scribes, à des savants, à des docteurs de la loi. Eh bien, lorsqu'il a 30 ans et que Saint Joseph a quitté cette vie terrestre entourée de Jésus et de Marie, et qu'il laisse la place au Père de Jésus, eh bien, notre Seigneur va se manifester et il va demander le baptême à Jean. Et au moment même où il est baptisé, l'Esprit Saint se manifeste sous la forme si pacifique de la colombe et la voix du Père se fait entendre « Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » Alors, aujourd'hui, nous bénéficions de ce don particulier du Fils de Dieu, du Verbe éternel qui s'est fait chair et qui manifeste son incarnation d'une manière plus forte par un mariage. Il faut bien saisir dans la finesse de la foi chrétienne l'importance de ce signe. Car comme le disait le prophète Isaïe et bien d'autres prophètes, Dieu compare souvent son amour pour sa création, pour ses créatures, à un mariage. Il est l'époux et l'humanité est l'épouse, le peuple juif, la fille de Sion, est l'épouse qui est invitée à être vierge et fidèle à son époux. Et Saint Jean-Baptiste lui-même dira que celui qui l'a baptisé, eh bien, il doit grandir et lui diminuer, alors que les disciples de Jean le Baptiste s'inquiétaient de voir Jésus attirer maintenant plus d'âmes que le Baptiste. Ils continuaient en disant « Je suis là, quand l'époux vient, l'ami de l'époux se réjouit, il faut qu'il grandisse et que je diminue. » Cette comparaison toute particulière du Dieu d'Israël avec un époux dans un mariage, Jésus la continue souvent dans des paraboles où il parle d'un père ou d'un roi qui organise le mariage de son fils. Et aujourd'hui, Jésus veut, dans un mariage, signifier sa présence et sa mission, le moment pour lequel il est venu, l'heure qui est sa passion et sa résurrection. Cela est important dans la théologie mystique et cela nous fait saisir les coutumes qui donnent à des religieuses, parfois même à des religieux, une alliance. Cela nous semble parfois risible dans la décadence qui est la nôtre depuis tant de décennies, dans la moquerie depuis au moins 2 siècles, de cette vie religieuse qui commence par des personnes comme Diderot et autres, qui ont éteint les lumières de la foi pour des lumières obscures. Et voilà qu'il nous est donné aujourd'hui un mariage où cet homme et cette femme qui se sont mariés et qui fêtent ce mariage dans un festin de noces, eh bien, signifie le mariage et le repas des noces de l'agneau de Dieu. Le véritable époux, c'est bien Jésus, et c'est la raison pour laquelle, lorsque le maître du festin félicite l'époux d'avoir fait venir à la fin du repas un meilleur vin, c'est à Jésus qu'il lance cette louange. En vérité, c'est à Dieu le Père qui nous donne le fiancé, l'époux, l'agneau, le repas, le festin des noces de l'agneau, dont saint Jean l'évangéliste a vu la beauté dans son Apocalypse. Oui, à la fin des temps sera encore manifesté cet amour tout particulier de Dieu que nous devons accepter tel quel. Voyez-vous, de nos jours, parfois, on a des paroles un peu mièvres ou plates. Eh bien, nous devons quand même recevoir cette vérité. Dieu, Créateur, nous aime comme un époux aime son épouse. Chaque âme humaine est aimée par Dieu, d'un amour de toujours à toujours, qui se compare à la beauté et à la générosité d'un mariage. Et cela est vrai pour toutes les âmes. C'est la raison pour laquelle il court derrière nous et il désire notre salut. C'est la raison pour laquelle Dieu ne se décourage jamais, ne se lasse jamais d'attirer une âme à lui, même l'âme la plus épaisse, la plus brutale, la plus mauvaise, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à cette dernière possibilité de se convertir, eh bien Dieu l'entoure de sa grâce. Et l'Église catholique a toujours été prudente par rapport à un excès de justice ou une sévérité, toujours elle a été prudente, qui voudrait que Dieu ait décidé de la damnation d'une personne avant même que sa liberté, sa conscience libre ait choisi de rejeter la grâce et d'aller en enfer au moment de sa mort, au moment où elle est jugée par Dieu. Comme le dit saint Jean de la Croix, au soir de votre vie, vous serez examiné sur l'amour. Et cet examen sera authentique et vrai. Il sera miséricordieux, mais il sera juste. Et les âmes qui auront refusé l'ultime grâce voudront s'écarter définitivement de Dieu. Alors, si Jésus vient, c'est bien pour donner son sang et sa vie pour son épouse. Et bien qu'il y ait eu des comparaisons malheureuses ou des livres malheureux, nous sommes bien des pierres vivantes qui constituent l'Église, ou en quelque sorte les cellules vivantes d'un corps vivant. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tous ses membres soient rattachés à ce corps et vivent de la source de vie qui vient de la tête de ce corps, qu'est Jésus. Mais ce soir, nous devons terminer en honorant celle qui prie pendant ce mariage à Cana en Galilée. C'est la nouvelle Ève, c'est le cou de ce corps. C'est elle qui a été choisie pour être immaculée dans sa conception, c'est elle qui a été choisie pour donner au Verbe éternel un corps. C'est elle qui, donc, est la mère d'une personne. Elle n'est pas seulement la mère d'un corps et d'une âme, d'une nature humaine, elle est la mère d'un être qui parle, qui dit « je », qui est une personne et qui a une nature divine unie sans mélange à cette nature humaine, c'est Jésus, le Fils de Dieu, éternel et dans le temps humain, véritablement Dieu et véritablement homme. Et le rôle de la Vierge Marie sera de toujours à toujours, car elle est celle, elle est le moyen, elle est l'instrument, elle est la créature que le Père a choisie. Et nous ne pourrons jamais cesser notre louange et notre vénération pour celle qui nous permet de voir celui que nous adorons. Elle est celle qui, à ce premier miracle de Jésus, dit « Cette humanité, mon Fils, elle n'a plus de vin. Elle a besoin de ce vin, elle a besoin de cette eau purificatrice, elle a besoin de cette eau qui va nous noyer, dans laquelle nous serons baptisés, elle a besoin de ce vin des noces, elle a besoin de cette vie, elle a besoin d'être enivrée par l'amour divin, elle a besoin de ce sang innocent, aux mérites infinis. Elle a besoin de ta passion et de ta croix, elle a besoin de ta résurrection. » Et Jésus lui répond, « Femme, avec un infini respect, oh, n'écoutez aucun commentateur ou exégète qui pourrait réduire à une incroyable médiocrité la finesse des paroles du Christ. S'il lui dit « femme », c'est parce qu'elle est cette moitié de la nature humaine, cette femme, cette épouse. Et lui, il est le nouvel Adam. Et parce que cette humanité a péché, il lui dit « Comment oses-tu me demander cette miséricorde et cet amour supplémentaire et ce pardon ?» Et cette passion et cette croix, la Vierge Marie, elle ose. Elle entend ce reproche fait à la nature humaine qui s'est révoltée par le péché. Et elle l'espère. Et elle dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ainsi, la Vierge Marie va jusqu'au bout intercéder pour nous, alors même qu'elle sait, parce qu'elle a lu les prophètes et parce que l'Esprit-Saint l'a enseigné, que ce qu'elle demande, c'est bien l'heure de son Fils, elle dont le cœur va être traversé d'un glaive de douleur au pied de la croix, comme Siméon l'avait annoncé lors de ce 2 février, cette fête de la purification et de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Quelle femme courageuse qui, 30 ans plus tard, assume sa mission et demande à son Fils de donner sa vie pour nous. Une dette perpétuelle qui nous oblige pour notre pays, pour l'Europe, pour le monde, pour les âmes, à l'écouter lorsqu'elle nous demande de prier le chapelet. En cette année 2019, que je vous souhaite belle et bonne, avec la santé du corps et de l'âme, eh bien, que nous puissions dire notre chapelet quotidien, coûte que coûte, même avec ennui, même automatiquement. Et que nous puissions dire aussi, des prières avec goût, ce chapelet lui-même, des prières qui viennent de notre cœur, âme du Christ pour Jésus. Parfois nous n'avons pas de mots pour prier avec Jésus. Il y a cette belle prière, âme du Christ, sanctifiez-moi, qu'il faudrait bien apprendre par cœur pour que cette année soit belle et pour que cette année soit forte dans la foi et l'espérance et que nous puissions le plus possible bien préparer, bien recueilli et peut-être confessé, recevoir Jésus lui-même vivant dans la Sainte Hostie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.